Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le cours Âme-Sœur. Je reviens sur ça, ça ne sera pas tellement long. Mon nom est Yannick Étier. Je fais une introduction parce que le cours est enregistré. Et donc, on donne la leçon 1 ce matin sur le cours Âme-Sœur. Donc, comme je le mentionnais, ce cours-là est enregistré. Il va être disponible sur le site web. Si jamais vous manquez une leçon, vous pouvez aller vous rattraper. Et si jamais vous réalisez ce matin qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui devrait absolument être ici, vous pouvez lui dire d'aller écouter la leçon 1 pour le convaincre ou la convaincre. Puis ensuite de ça, ils pourront se joindre à nous. Sur la table à l'entrée, il y a des notes de cours que vous pouvez aller prendre pour cette semaine. Et il y a une feuille de présence. Je vous demande d'inscrire vos noms sur la feuille de présence parce que les premières semaines, on prend les présences juste pour avoir une idée du nombre de participants dans nos différents cours. Et parce qu'en inscrivant votre adresse courriel, vous allez recevoir un beau cadeau chaque semaine, les notes de cours. En principe, le vendredi, Manon vous envoie ça. Et donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais aussi parce qu'avec de semaine en semaine, dans le fond, on va ajuster la quantité d'impressions. D'accord? Si on se rend compte qu'il y a juste 10 copies qui partent, les gens travaillent avec les notes, les copies informatiques, c'est parfait, on va sauver du papier. Alors, si vous le permettez, on va aller dans un mot de prière, puis on va commencer. Bien, Père éternel, on veut te bénir pour cette opportunité, Seigneur, d'adresser ce sujet vraiment, vraiment beau. Je suis content, Seigneur. Je me préparais, puis dans mon cœur, j'étais vraiment heureux de pouvoir adresser la question tant du célibat que des fréquentations. On veut te demander, Père, de venir nous accompagner pendant cette session, alors qu'on va grandir ensemble dans une réflexion biblique sur le célibat, sur les fréquentations, Seigneur. On te prie de nous faire grandir en sagesse, on te prie de nous faire grandir dans de belles convictions, Seigneur, aussi, bibliques. Je te prie, Père, de me conduire dans ce que j'apporte. C'est un domaine où, personnellement, je pourrais être tenté d'y aller à plusieurs reprises de mes avis, de mes opinions personnelles, mais c'est ta parole, Seigneur, que je veux enseigner. Alors, je te prie de me conduire en ce sens et certainement qu'à travers le cours, on va toucher aussi à des zones sensibles dans l'histoire de différentes personnes ici dans le cours. Alors, je te prie pour ma part de m'accorder d'être doux, d'être sensible et de venir, Seigneur, faire une œuvre par ton esprit dans nos cœurs, une œuvre réelle et profonde. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, je veux vous remercier d'être ici dans le cours. On a choisi un titre un peu ironique, « Âme-sœur ». J'espère que vous avez deviné que c'était ironique, mais je vais revenir sur ça davantage lorsqu'on va arriver dans la deuxième section du cours, d'accord? Est-ce que c'est biblique cette pensée-là? On a chacun une âme sœur, tout ça. On viendra sur ça, puis on pourrait le traiter de manière assez simple et triviale, mais en réalité, je pense aussi que ça parle de choses des fois qui sont assez profondes dans nos tripes. On va revenir sur ça. Pendant que j'étais en train de me préparer, je me disais, il faut que je sois honnête avec les gens dans le groupe. Si vous venez dans ce cours-là en vous attendant à ce que je fasse l'éloge du mariage, puis comment c'est beau le mariage, puis tout ça, parce que le cours est en deux sections, célibat, puis ensuite de ça, fréquentation, vous n'êtes pas à la bonne place. D'accord? Je ne suis vraiment pas ici pour faire l'éloge du mariage. Au contraire, ça va me donner l'occasion à moi de clarifier beaucoup de choses sur ma compréhension des Écritures sur le célibat. Et pour être franc avec vous, j'espère que certains d'entre vous vont décider à la fin de ce cours-là de ne pas se marier avec une conviction. Parce que je crois personnellement que le célibat, c'est glorieux, puis je crois que le mariage, c'est glorieux. Puis vous allez voir, on va déjà placer des choses comme ça ce matin. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à se marier, qui se marient. Une fois qu'ils sont mariés, ils viennent me voir, ils me disent « je suis mal marié ». Non, je suis désolé, tu es très bien marié, tu n'étais peut-être pas appelé à te marier, mais tu es marié, tu es très bien marié. Dieu veut que tu sois marié maintenant jusqu'à la mort, puis on va t'aider à mourir à toi-même, puis à te donner, puis à aimer. Mais je pense qu'il y en a qui ne sont pas appelés à se marier, puis qui se marient, puis il y en a qui sont appelés au célibat, qui devraient assumer ça avec joie. Puis je pense que l'Église n'aide pas beaucoup tout ça non plus, puis que l'Église est très, très, très inculturée dans une culture populaire. Très affecté par ça, puis ne comprend pas bien ce que le Nouveau Testament enseigne par rapport au mariage, par rapport au célibat, puis par rapport à notre identité. Donc, c'est ça. Si vous venez ici pour vous faire flatter dans le sens du poil, puis vous dites « Oh, enfin, quand je vais partir d'ici, je vais savoir comment me trouver un mari, comment me trouver une femme, peut-être même réussir à faire quelques matchs dans le cours », vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes pas à la bonne place. Ma prière, c'est que quelques-uns d'entre vous réalisent leur appel au célibat, puis l'embrassent avec joie, puis que d'autres se vivent leur célibat comme Dieu veut qu'ils le vivent en attendant que l'appel au mariage vienne se confirmer, puis avec quelqu'un avec qui ils vont se marier, tout ça. Donc, ça, c'est mon objectif. Pareillement, sur les fréquentations, je parlais, puis je réfléchissais, puis je parlais avec des gens, puis j'ai dit, lorsqu'on va arriver sur les fréquentations, c'est peut-être le moment où vous allez me trouver le plus cinglant dans les dernières années, d'accord? Il y a beaucoup de n'importe quoi dans les fréquentations. Il y a beaucoup de fréquentations très, très, très charnelles, puis très mondaines. Puis, vous allez savoir ce que j'en pense, d'accord? Comment est-ce qu'on devrait vivre ça bibliquement? Vous pouvez déjà commencer par faire une étude biblique sur le mot « fréquentation » dans la Bible, puis voir qu'est-ce que vous arrivez à construire comme théologie autour de ça. Puis après ça, on va aller voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est ça, donne une petite piste déjà pour réfléchir là-dessus. On vit dans une culture qui glorifie l'amour romantique et sexuel au lieu de l'amour biblique. C'est drôle parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'on vit dans une société qui glorifie vraiment l'amour romantique et l'amour sexuel? Ça va si je dis ça, j'ai pas, ça cadre culturellement, bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça me frappe depuis 3-4 mois, j'écoute des gens en entrevue, des artistes, n'importe qui, puis je ne sais pas si c'est une mode là, actuellement, je vais voir si ça va passer, mais régulièrement, puis peut-être que c'était toujours là puis je ne l'avais jamais remarqué, mais régulièrement, j'entends des personnalités publiques, à un certain moment donné, quand l'interview s'en va dans le champ de dans la sphère plus privée, les gens vont dire « ma plus grande fierté, c'est mes enfants ». Ça me frappe. En fait, je ne me souviens pas là, d'avoir entendu « ma plus grande fierté, c'est l'amour que j'ai pour, bon, si j'étais dans le monde, ma blonde, puis de réussir mon couple. » Fait que c'est frappant à quel point on vit dans une société qui glorifie l'amour romantique, l'amour sexuel, tout ça, mais qui ne réussit pas du tout ses unions à un point tel que leur plus grande fierté, c'est certainement pas cet amour-là. C'est l'amour pour leurs enfants. Ça me frappe parce que évidemment ils changent de partenaire régulièrement. Fait que si c'était leur plus grande fierté, il faudrait qu'ils changent de plus grande fierté peut-être régulièrement aussi. Fait que les enfants, t'essaies de pas changer trop souvent d'enfant. Mais vraiment, ça me frappe. Ça me frappe à quel point ceci illustre une confusion profonde dans la culture populaire où on comprend pas c'est quoi le mariage. Le fondement du mariage, c'est le coup de foudre, c'est la romance, c'est la sexualité pour bien des gens. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tous les couples, d'accord? Il y a des couples dans le monde qui sont heureux, puis qui sont heureux toute leur vie. Puis dans vos familles, vous connaissez probablement des gens qui n'ont pas de fondement vraiment chrétien pour leur union, puis qui vivent une belle union, d'accord? Donc, je ne suis pas en train de mépriser tout ce qui se passe à l'extérieur, mais je parle des grandes tendances culturelles, tout ça, puis je pense que ça s'en va dans ce sens-là. Et en même temps, c'est un échec perpétuel, puis j'ai juste ce petit symptôme-là, tout petit, où vous serez attentif, les personnalités publiques vont dire « ma plus grande fierté, c'est mes enfants ». Je ne suis pas capable de l'interpréter autrement. Je veux dire, moi, si je disais ça, publiquement, là, à cette heure-là, les enfants sont là, puis je dis « ma plus grande fierté, ce sont mes enfants ». Je ne sais pas, je pense qu'Esther, à un moment donné, elle me dirait « je pense qu'on va aller prendre un souper, Yannick, puis il faut qu'on se parle un petit peu ». T'sais, ton mariage, c'est pas ta plus grande fierté. Fait que ça nous parle de notre société, puis ça, l'Église veut pas a tendance à être inculturée. C'est-à-dire qu'elle a tendance à être perméable plus qu'elle ne devrait l'être à cette culture-là, puis pas déposer un bon fondement biblique pour réfléchir sur ces questions-là. Maintenant, je vais dire quelque chose de plus gros que ça encore. Je crois qu'on vit dans une culture évangélique qui glorifie le mariage puis la famille au-delà de ce que le Nouveau Testament fait. Puis on va aller le voir ensemble. D'accord? Quand je fais des grosses affirmations comme ça, j'essaie de les défendre. Mais je crois qu'on vit dans une culture évangélique qui élève le mariage puis la famille au-delà de ce que le Nouveau Testament fait. Ça se comprend, parce que, je veux dire, si je fais un raisonnement juste humain, la majorité de nos églises sont composées de couples mariés, puis les enfants sont là, puis on veut pas, On veut prêter attention. Puis de toute façon, si tu ne le fais pas, quand les couples commencent à se déchirer, comme pasteur, tu te rappelles que tu t'en occupes. Tu sais. Fait que c'est clair que c'est important. C'est une bonne partie des chrétiens. Un grand pourcentage des églises sont composées de couples mariés, de gens qui se préparent à se marier, puis de familles avec des enfants. Donc, c'est une partie importante, définitivement. Mais ma conviction profonde, c'est que dans le milieu évangélique, on glorifie le mariage et la famille au-delà de l'accent qu'il y a dans les Écritures. Puis je pense qu'en faisant ça, on fait du mal au mariage, on fait du mal à la famille, on fait du mal au célibataire. On va aller le voir ensemble. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, vous êtes prêt à quitter le cours. Restez au moins jusqu'à la fin de ce cours-là, vous déciderez après de changer d'église. Alors, juste pour situer un petit peu le cours, donc un petit peu d'informations avant de rentrer dans, un petit peu plus dans la matière. Le cours est divisé en deux parties. La première partie du cours, c'est sur le célibat. La deuxième partie du cours, ça va être sur les fréquentations. On a 12 semaines, on n'aura pas le temps de couvrir de manière exhaustive ces sujets-là. Mais en même temps, comme on n'avait aucune ressource enregistrée, disponible pour essayer de développer une culture puis une théologie d'Église, je suis content, il y a quelques couples, il y a quelques gens mariés qui sont là. Puis je suis content de ça parce qu'on veut une théologie d'Église. On veut avoir une culture dans l'Église où les gens sont capables de voir ça bibliquement, de voir ça sainement. Qui est-ce que je vise avec le cours? Je l'ai mentionné dans mes notes, je le réitère, donc peut-être vous avez d'autres personnes qui devraient joindre au cours dans les prochaines semaines. Ce n'est pas un cours pour les adolescents que je donne. D'accord? Quand on a à l'adresser avec les ados, soit que Oscar va le faire avec d'autres personnes là-bas, moi je suis allé le faire aussi, on va discuter des sujets dans une perspective un peu plus d'adolescents, mais vous comprenez que le premier message qu'on a en tête de leur dire, c'est « C'est-tu vraiment le temps que tu sois en train de t'engager là-dedans? Tu » sais? Fait que bien, chacun d'entre vous, peut-être que c'est vraiment le temps que vous engagez là-dedans. Fait que, on est ailleurs, d'accord? Et puis dans mon esprit, ce que je vais toujours avoir à l'esprit, vos commentaires vont m'aider énormément. J'ai très peu d'expérience dans le célibat, d'accord? Je n'ai pas été longtemps célibataire dans ma vie. Mais donc, vos commentaires vont m'aider. Mais ce que je veux faire avec le cours, c'est que je veux penser à la personne. Je veux dire, moi, un jour, ça se peut que je sois célibataire, vous comprenez? Je tombe veuf, là. Puis peut-être que Dieu m'appelle au célibat après, quand je rentre dans le veuvage. J'ai aucune idée de ça. Peut-être Esther va être célibataire. Donc, je pense à tout le monde là, dans l'Église qui peut être appelé à se marier à 80 ans, peut être appelé à rentrer dans le célibat à 59 ans, peut être abandonné par son conjoint qui quitte puis qui s'en va dans le monde puis qui est appelé à partir de ce moment-là dans le célibat ou est appelé à... Vous comprenez? Donc, tous les groupes d'âge, toutes les situations, et on va essayer de le couvrir dans cette perspective-là. Et certainement, puisque je vais avoir 45 ans cette année, avec 23 ans de mariage, mais par exemple, le célibat à 50 ans, moi, à 40 ans, je ne connais pas ça. Je n'ai pas connu ça. D'accord? Alors, vos commentaires vont m'aider si vous dites, bien, c'est sympathique, Yannick, mais tu n'es pas vraiment connecté sur la réalité. Allez-y, venez me voir. Des fois, le dimanche matin, c'est un peu plate. Souvent, c'est moi qui prêche après. Fait que des fois, c'est un petit courriel qui est la meilleure manière de me partager vos réflexions. Mais autrement, je vais essayer d'être le plus disponible possible. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours-là? Vous l'avez dans le plan de cours, les leçons en gros. Aujourd'hui, on commence l'identité. Possiblement qu'on va terminer ça la semaine prochaine. Quelle est notre identité comme individu? Quelle est notre identité comme célibataire aussi? Ensuite de ça, on va aller parler de ce que ça apporte, ce que ça a comme impact, cette identité-là. Comment est-ce qu'on vit ça en communauté, en église, avec les amitiés, la communauté, toute la question du où on va adresser probablement là un petit peu plus les idoles que la culture nous propose, les idoles que la chair nous propose, qui peuvent rendre difficile de bien vivre notre célibat, qu'on soit appelé au mariage ou non. Donc le contentement dans le célibat. Et je n'ai pas encore mes panélistes. Mais on va avoir un panel à la fin de la partie sur le célibat. Donc, un petit peu ceux qui étaient avec nous en fin de semaine à Sola, un petit peu de la même manière. Des gens qui sont plus expérimentés que moi dans la question. Certains qui sont appelés convaincus qu'ils vivent bien au célibat. Et d'autres qui, non, crois, qui sont appelés au mariage, puis qui, par la grâce de Dieu, vivent bien aussi leur célibat en attendant du mariage. Ensuite de ça, on va aller dans les fréquentations. Introduction aux fréquentations, premier pas, où aller à partir d'ici, étape préliminaire. Donc, on va aller progressivement, là, littéralement, vous accompagner dans ça, à quoi ça sert, fiançailles, mariage, c'est quoi les limites qu'on doit se donner. On va parler de la culture contemporaine, les relations amoureuses, puis on va terminer aussi avec un panel. D'accord? Puis on va vous partager les ressources qu'il y a dans l'Église pour que ce soit au niveau du célibat ou que ce soit au niveau des fréquentations. Est-ce que vous avez des questions sur le contenu du cours à ce point-ci? De toute façon, on va parler un petit peu de célibat, puis je vais prendre des idées, des commentaires. J'aurais besoin, je n'ai pas pensé de le dire, ou je répéterai les questions, c'est bon. Je répéterai les questions, ça va aller. Notre sujet aujourd'hui, le célibat et l'identité. Quand on aborde la question du célibat, inévitablement, on est en train de parler d'identité. D'accord? Lorsque tu te présentes à quelqu'un et tu dis « moi, je suis célibataire », tu es en train de faire un statement, une déclaration dans notre culture énorme sur ton identité. La personne se fait une idée de qui tu es, puis classe un paquet d'affaires dans sa tête. Tu ne peux pas assumer ça sans vraiment adresser cette question-là. Puis, sur le plan de l'histoire, la société occidentale postmoderne dans laquelle on vit probablement un moment unique dans l'histoire. D'accord? Dans le sens que pendant des centaines d'années, pendant des milliers d'années, la vaste majorité des adultes qui composaient une société étaient en couple mariés. D'accord? C'était comme ça dans la société occidentale. C'était comme ça qu'on construisait la société. C'était comme ça qu'on assurait l'avenir d'une société autour d'une famille, une famille nucléaire, une famille avec un père, une mère, puis des enfants. Et donc, ça s'est toujours construit comme ça. C'est normal. Les Écritures vont dans ce sens-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et cette société-là occidentale, largement christianisée dans ses valeurs, je ne veux pas dire qu'elle était largement chrétienne, mais largement christianisée dans ses valeurs, embrassait ça très bien. D'accord? Donc, ça a été le cas pendant des siècles. Et puis, les choses ont changé drastiquement à partir du 19e siècle et puis la deuxième moitié du 20e siècle. On a des chiffres ici. Des études montrent qu'au 19e, la première moitié du 20e siècle, les adultes célibataires composaient généralement seulement 5% de la population adulte. 3% d'entre eux ne se marieraient jamais. 1% était divorcé, 1% était veuf. Donc, 95% de la population adulte était mariée. D'accord? Jusqu'au milieu du 20e siècle. Les études aujourd'hui démontrent que la proportion de personnes célibataires tourne autour de 45-46%. Nous sommes passés de 5 à 45%. Je n'avais pas de statistiques assez pour dire, OK, ça veut dire exactement l'union libre est où dans tout ça. Mais il demeure quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont célibataires, même dans le monde. D'accord? Puis ils vont peut-être avoir des aventures, mais vraiment être en couple, c'est surprenant à quel point ça change rapidement. Comment est-ce qu'on explique ça? Bien, toutes sortes de raisons. L'âge moyen des mariages est allé plus tard. Les gens vont chercher à s'établir dans la vie avant ça. Que ce soit là, d'aller en une union à long terme aussi, ils vont chercher à établir leur carrière. Évidemment, l'augmentation du taux de divorce, la cohabitation. Le mariage est de plus en plus considéré comme quelque chose de vieux jeu. Or, c'est démontré que les couples qui ne se marient pas restent moins ensemble que les couples qui vont juste s'accoter. Une des raisons très concrètes aussi, c'est la mobilité de la population. La population est très, très, très mobile, se déplace énormément. Puis c'est comme si les églises évangéliques, on est dans une autre dimension. D'accord? Culturellement, on est dans une autre dimension. Même sur le plan des divorces. Hein, c'est sûr, là, moi, nous, on est dans un milieu un petit peu plus conservateur. Les milieux, des fois, non charismatiques sont un petit peu plus conservateurs aussi. Mais régulièrement, j'ai des gens qui viennent, puis quand ils entendent qu'il y a un couple qui explose, ils sont tristes pour ce couple-là, mais ils ont peur qu'il y ait une pandémie qui parte immédiatement. D'accord? Je comprends, là, puis c'est chaque fois que ça arrive, c'est un drame. C'est toujours un drame. Je sais, je suis à peu près toujours au milieu de tout ça, d'accord? Mais ça va faire 20 ans là, que je suis pasteur ici. Là. Le taux n'a pas changé en 20 ans. C'est ça la vérité, d'accord? C'est triste. La réalité, c'est qu'on en a à peu près 1 ou 2, 3 ans. D'accord? C'est environ ça. C'est super triste. C'est un de trop. D'accord? Mais la réalité, c'est quand même c'est qu'on est dans une autre culture. On vit une autre culture que la culture dans le monde. Je ne suis pas en train de dire que tous les mariages sont super heureux. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je parle de divorce, d'accord? Fait que les églises évangéliques, c'est un espèce de microcosme complètement différent. Ou au contraire, et c'est là que je vais vous demander un petit peu vos impressions, vos commentaires. Mais moi, comme personne mariée, souvent j'ai le sentiment que ce qui est communiqué aux célibataires, c'est que c'est des personnes incomplètes. Souvent, j'ai ce sentiment-là. Je pense qu'on vit un peu comme ça. L'Église évangélique vit comme ça. Si tu lis le Nouveau Testament, on va voir ça déjà, on va commencer ce matin. Tu te rends compte que ça n'a aucun bon sens. L'Église n'est pas en connexion avec la parole de Dieu du tout sur cette question-là. Fait que si tu es dans le monde et tu es seul, bon, peut-être que c'est intermédiaire, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu es en train de poursuivre ta vie, ta carrière, tu es en train de t'épanouir, tout ça. Puis si tu es dans l'Église, on se demande c'est quoi ton histoire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ah, OK. Tu sais, quelqu'un d'incomplet, quelque chose qui se passe derrière ça. Puis c'est comme s'il y a une tension parce que chaque année, on célèbre des mariages. Puis si on célèbre un mariage, c'est un moment heureux. Tu sais, je peux pas comme... Ce matin, là, on a... Où est-ce qu'il y a notre super tech, là? Pas là? On a des jeunes mariés qui étaient là. Tu sais, David revient de son voyage de noces avec Myriam. Super cool, tu sais. Fait que... Ah, ils sont là-bas! Tu veux fêter ça, c'est génial. Ils arrivent, t'es content. Wouh! Party, tu sais. T'es content pour eux. Puis à quelque part, c'est précieux le mariage, c'est beau le mariage. Fait que ça crée une espèce de... OK, eux autres, ils ont décroché le trophée, ils ont décroché le prix, ils se sont mariés, wouh! Fait que ça crée cette espèce de tension-là. On va adresser la question de l'idolâtrie de l'amour dans notre quatrième leçon. Mais permettez-moi d'affirmer simplement que l'identité d'une personne célibataire ne tourne pas autour du fait, premièrement, là, essentiellement, qu'elle est seule. Pas du tout. C'est dans la culture de l'Église, puis je pense que l'Église a besoin de grandir pour se rapprocher de la parole de Dieu. Fait que peut-être que des fois, je vais dire des choses qui sont indélicates envers les célibataires. Puis je veux être délicat, je veux prendre soin, d'accord? Mais pour être franc avec vous, mon motif premier, avec tout ce que je dis depuis tantôt, c'est pas une approche en disant « Pauvre petit célibataire, on ne prend pas soin de vous, puis tu sais, dans le fond, vous faites pitié parce que vous êtes seul. » Fait que là, on va vous donner un cours pour vous, puis on va prendre soin de vous. Pour de vrai, ce n'est pas ça mon motif. C'est que je pense que l'Église n'est pas biblique, puis il faut s'approcher des Écritures. C'est ça mon premier motif. C'est que je pense qu'il y a une espèce de culte du mariage qui n'est pas biblique, qui ne ressemble pas au Nouveau Testament, puis il faut qu'on grandisse là-dedans. Vous ne pouvez pas imaginer comment je vais me faire accrocher tantôt, puis cette semaine. Ils vont dire, là, Yannick, tu ne prends pas soin des familles. Je ne suis pas oublié rien dans mes notes. On passe à quelques questions bientôt. Comment est-ce que le dictionnaire Webster définit le mot « célibat »? Il va définir ça comme « unique ». C'est quelqu'un qui est unique parce qu'il est seul. Bien définir qui nous sommes à partir de ce que nous ne sommes pas, non mariés, n'est pas particulièrement valorisant. Et si l'Église évangélique a la vision d'un célibataire que c'est un non marié, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est incomplet. Et ce n'est pas ça que le Nouveau Testament m'enseigne du tout. Alors, on va regarder une définition biblique. On va passer pas mal de temps la semaine prochaine dans 1 Corinthiens 7. Laissez-moi simplement vous dire que ce passage de l'apôtre Paul nous donne une définition beaucoup plus riche du célibat, c'est-à-dire celui et celle qui sont entièrement dévoués au Seigneur. Ça fait 23 ans que je suis marié. C'est absolument vrai. Celui qui est célibataire est entièrement dévoué au Seigneur. Celui qui est marié ne l'est pas entièrement. Ça fait 23 ans que je suis marié. Puis j'ai des enfants en plus. Puis je suis heureux. Je suis heureux. Je ne veux pas vous dire que c'est une mauvaise condition. C'est pas ça que je veux dire non plus. Fait que j'aimerais ça vous entendre, d'accord? Puis il va falloir que je répète juste les commentaires. Puis, pardon? Ben, si c'est comme juste là, oui, cool. Mais c'est parce que la salle est large, tu sais. T'as-tu un micro sans fil? OK, cool. Fait que John va faire la course. J'aimerais ça entendre votre perception à vous. Puis s'il vous plaît, ne vous enlignez pas sur ce que j'ai dit. Dites-moi ce que vous pensez, d'accord? C'est quoi la vision dans la société, pas dans l'Église? On va aller à l'Église, ce sera pas long, là. Vous viderez vos crottes sur le cœur tantôt, là. Mais c'est quoi la vision dans la société du célibat? Ouais. Quelle est la vision de notre société en général du célibat? On va prendre un petit 10 minutes pour des questions, là. Ça va m'aider vraiment à être plus efficace dans la suite des cours. Fait que j'ai vraiment besoin de ces infos-là. Quelqu'un qui veut se mouiller? Oui. Merci.
Il faut surtout pas rester longtemps
dans ça. OK. Dans le monde. Dans le monde aussi, c'est ça la vision. OK, merci. Donc, dans la société, comment est-ce qu'on voit le célibat? Il ne faut pas rester longtemps comme ça. Oui, Caro.
Je sais qu'à un moment donné, Hugo Lapointe avait parti une toune qui s'appelait « Célibataire » et c'était le truc hot dans le sens que il se voyait célibataire, mais son célibat était plus un choix de vie, dans le sens qu'il voulait courailler plus que de s'établir. Non, mais je pense que ça fait partie de la société. Ils se voient célibataires, mais dans le fond, ils ne veulent pas être célibataires. Ils veulent juste comme...
Oui, c'est ça. Ils veulent juste des aventures. Ils veulent juste des aventures. Puis effectivement, vous comprenez, si on pense que c'est mêlé, c'est pas fini, là, parce que de plus en plus, la... renoncer à la monogamie, c'est de plus en plus populaire aussi. Là. T'sais, c'est pas qu'ils veulent être polygames, c'est qu'ils veulent juste comme changer de partenaire quand ils veulent. Puis, je veux dire, l'élite intellectuelle, en Californie actuellement, l'élite intellectuelle fait de plus en plus la promotion de ça. D'accord? Juste de dire, tu changes de partenaire aussi souvent qu'il faut. Fait que c'est là qu'on s'en va aussi. Oui.
Je pense qu'on la voit, la société la voit de deux façons. Le célibat pour un homme est perçu différemment que le célibat pour une femme. Excellent. Souvent, les hommes, ça va être la liberté. L'homme, il est libre de faire ce qu'il veut, ainsi de suite. Et même des fois, ça peut être envié, mais faussement, là, mais ça peut être envié. Alors que pour une femme, c'est comme le rejet.
Ouais.
Elle est seule, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis, il y a vraiment deux perceptions, tout dépendamment de quel angle on la regarde, tout dépendamment Excellent. Si on est un homme ou une femme.
Excellent. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Il y a comme une espèce d'échec chez la femme, c'est comme ça. Puis une image de, je ne veux pas dire qu'il y a, mais une image de. Sam?
C'est drôle, ben, parce que moi, je vois l'inverse. Moi, je vois beaucoup le penchant féministe qui rejette les hommes et qui préfère rester célibataire pour faire leur vie. Et que je vois plutôt que c'est... les femmes célibataires qui ont leur liberté parce qu'ils ont dans le passé les femmes étaient un peu contrôlées par les hommes puis là ça l'a été à l'inverse maintenant avec le côté féministe qui est
présent. Je pense que c'est présent aussi, c'est comme des espèces de courants contradictoires là, qui
ouais,
sont là.
C'est, ouais. C'est très contradictoire.
Je pense que c'est présent aussi. Merci Sam. Antoine?
Il y a aussi l'idée, je pense, un peu de dire si telle personne est célibataire, il peut avoir un problème avec la personne.
Dans le monde aussi?
Dans le monde okay. aussi, oui.
Okay.
Si le gars est vu comme étant beau, la fille est vue comme étant vraiment belle, il y a un problème avec cette personne-là. Si elle est célibataire, c'est pas normal aux yeux des gens.
OK, excellent. Je vais avec mes autres questions parce que je veux aller vers celles qui vont me donner un petit peu plus de matière pour bien travailler avec vous. Quelle est la vision du célibat dans l'Église? Qu'il y a quelqu'un qui veut dire ce qu'il pense. Rachel. Rachel, hey, Rachel, tu t'es mariée tard, toi? Non, mais j'aime ça. J'aime ça. Vous allez voir, c'est intéressant d'entendre Rachel là-dessus.
J'ai rencontré Dani, j'avais 28 ans. Donc, selon les critères de l'Église, j'étais vieille.
Oh, man. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Comment est-ce qu'ils appellent ça, les vieilles filles?
Oui.
Non, non, il y avait un autre nom pour les vieilles filles. C'était quoi, donc? Une Catherine?
Ah oui, c'est ça.
T'en venais une Catherine?
Donc, de 19 ans à 25 ans, on me posait souvent la question. Puis, as-tu rencontré... Nanana, moi, j'ai beaucoup voyagé. Mais non, je disais, ben oui, non, peu importe. Mais après 25 ans, on ne me posait plus trop les questions parce que là, il y avait comme un malaise. Donc, moi, je trouvais ça bien drôle, mais en même temps, pas drôle, tu sais. Fait que c'est juste ce que je veux dire, c'est que ah ouais. Tu as comme un setup de temps où est-ce que, tu sais, tu es éligible, mais après ça, c'est, ouais, là, tu as dépassé ton temps, là, tu sais.
Tu es expiré, tu n'es plus en valeur, tu n'es plus sa première page sur une recherche sur Google. Tu es rendu à 28e page. Oui. Paul. OK, vas-y, Florent. Paul.
Il y avait Paul. Je pense aussi. Que ça dépend aussi des cultures, parce que un constat que j'ai fait en Occident, les gens se marient très tôt. Par rapport en Afrique, par exemple.
Oh, c'est intéressant.
La moyenne d'âge des filles, c'est autour de 24 ans. 24 ans, la plupart vont se marier. 24, 25, 26.
On va faire des échanges culturels.
Et donc,
on va faire des échanges culturels avec l'Afrique.
On voit des garçons à 22 ans qui sont mariés. Parfois, à 22 ans, il est dans la plupart en train d'aller à l'université. Et il y a une culture comme, OK, il faut avoir au moins un diplôme pour pouvoir être en mesure d'assumer ta famille avant de te marier.
Il y a des belles valeurs en Afrique.
Et dire que ce n'est pas toujours évident qu'à 22 ans, tu sois en train d'avoir une carrière établie pour être en mesure d'assumer ta famille. Ouais. La moyenne des garçons en Afrique, pour le cas du Cameroun, par exemple, vont se marier à partir de 30 ans.
Les gars vont se marier à 30 ans.
Généralement, c'est dans cet âge
belles valeurs en Afrique,
que
hein?
La plupart vont commencer à se marier.
Oui, c'est ça. Merci.
Mais quand on revient quand même dans l'Église, à partir d'un 24-25 ans, lorsqu'une fille n'est même pas en fréquentation, c'est comme il y a des regards sur lui. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que... Et même déjà au niveau de la famille, on va commencer à te mettre une certaine pression. Et si...
Que tu n'aurais pas dans le monde en Afrique, dans la... Mettons, au Cameroun, si tu n'es pas dans l'Église.
Même si tu n'es pas dans l'Église, au niveau de ta famille, il y aura quand même une certaine pression qu'on commence à mettre sur toi. Est-ce que tu ne rencontres pas quelqu'un? Est-ce que c'est parce que tu es exigeant? C'est... Déjà, au niveau de ta famille, on va t'encourager si tu as tes barrières à vouloir les briser.
Ouais.
Et pour des familles qui ne sont pas chrétiennes ou qui ont juste une culture christianisée, ils vont même t'encourager à épouser un non-chrétien. L'essentiel, c'est que tu sois marié.
OK, tout n'est pas parfait en Afrique.
Non.
OK, c'est bon. Merci, Flan. Paul, il y avait Paul? Essayez de faire vos réponses un tout petit peu plus brefs pour qu'on je puisse en prendre plusieurs, mais c'est super intéressant.
Ouais, moi, je vais parler de trois phases. Célibat numéro un, quand j'étais jeune célibataire, pas marié, je finissais mes études, etc. J'étais engagé dans l'Église, mais on sentait vraiment, moi et quelques-uns, que notre statut de célibataire ne nous permettait pas d'avoir la reconnaissance que d'autres pouvaient avoir dans le Seigneur. Et ça, c'était très concret. Je me suis marié et tout d'un coup, je suis devenu très hot parce que j'étais marié et des ministères importants puis toutes sortes de choses. Bon, j'ai connu le divorce, tu sais, l'échec. C'est sûr que tu te sens pas bien là-dedans, là. Au début, c'est même moi qui me mettais une étiquette de loser. Tu sais, fait que oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, non, j'ai fait des démarches puis j'ai grandi là-dedans puis j'ai eu des victoires. Mais j'ai senti, par exemple, que dans beaucoup d'églises, pas toutes les églises, mais dans beaucoup d'églises où j'ai été, parce que c'est vrai, je me suis promené après mon divorce. C'était vraiment, garde, tu es célibataire. Alors, on t'aime bien, mais reste à ta place.
Ouais.
Et c'est souvent ça qu'on ressent, malheureusement.
Ouais. Merci. Merci, Paul. Karine, Aïssa. Puis après ça, peut-être une autre personne. Puis on va continuer. Mais je vous remercie. Puis si vous avez des... Si, admettons, ce que vous auriez dit, vous auriez eu de la difficulté à le dire publiquement. Je sais pas. Des fois, c'est l'histoire est plus dure à assumer. Envoyez-moi des courriels. Ça va m'aider beaucoup. Karine?
Ben moi, c'est comme Rachel, il y en a peut-être qui ne savent pas. Là, mais
quel âge tu t'es mariée?
À 30 ans.
À 30 ans? Ouais.
Puis j'étais vraiment célibataire là, pendant le temps que j'accepte le Seigneur, jusqu'à temps que je rencontre Jean-Pierre. Là. Et puis moi, mes parents ne sont pas chrétiens. Et c'était la pression, on veut des petits-enfants.
Mm-hmm.
Donc non seulement tu es à l'église, où ce que justement tu es comme pas normal, mais en plus envers la famille. Chaque année, là, c'était comme, oh, est-ce qu'on va avoir des petits-enfants? Est-ce qu'on va avoir des petits-enfants à un moment donné? Des fois, j'avais l'impression, est-ce qu'ils veulent que j'aie n'importe qui? T'sais, non, mais c'est ça, il y avait une pression qui était là.
Oui, oui. OK. Il y avait Aïssa. Antoine, short and sweet. OK. Aïssa, Antoine, puis je passe, puis on continue. On avance. Vas-y, Aïssa.
Quand le monsieur a parlé,
oui.
J'ai pensé à moi comme femme dans une situation encore dans une autre étape, OK? Vous avez parlé des trois. Moi, je vais parler d'une autre étape,
oui.
Des célibataires.
Oui.
Moi, je me suis mariée, divorcée avant de connaître le Seigneur. Mm-hmm. Quand je suis arrivée ici, je me suis rendue compte qu'une femme seule, divorcée avec un enfant, ou whatever, mais avec un enfant et seul, ouais. N'était pas bien.
Il y a une autre histoire.
Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est là quand j'ai ressenti, OK, cette religiosité, c'est quoi? Est-ce qu'il faut être marié pour être entendu? Mm-hmm. Est-ce qu'il faut avoir la voix d'un homme pour se faire entendre? Mm-hmm. Et c'est ça. La situation que moi, je vis présentement, c'est ça.
Oui, oui. Intéressant. Intéressant. Merci. Antoine.
Je dirais un des problèmes aussi, c'est la vision de certaines églises ou de certains chrétiens peut-être plus charismatiques ou moins conservateurs dans l'idée que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut tellement nous bénir, Dieu veut qu'on soit heureux. Donc automatiquement, si on est célibataire et qu'on veut avoir quelqu'un, bon, faut pas s'inquiéter, Dieu va absolument donner quelqu'un, c'est certain, il veut qu'on soit heureux. Mm-hmm. Puis je pense
c'est
un
bon.
Peu...
Oui, oui, c'est ça.
Il y a un peu une pression aussi, un problème. On est dû mélanger des fois, savoir qu'est-ce qui est vrai, c'est quoi qui est faux.
C'est vrai que Dieu veut notre bonheur, il veut qu'on prenne notre croix et qu'on le suive. C'est pas le même bonheur, hein? C'est pas celui-là, t'as en tête. Je suis d'accord, je comprends. Merci, John. Et je pense que vous l'avez bien illustré, d'accord? C'est un petit peu ça qui est véhiculé dans les églises. Souvent avec bonhomie, avec beaucoup de naïveté, tu sais, je veux dire. C'est quand même des idées reçues. Là. Tu vas être heureux, tu te maries un jour, ça fait partie du bonheur, tout ça. Puis, si t'es pas là, ben, tu sais. Mais est-ce que cette pensée-là est fondée bibliquement? Ça, c'est une autre question. Et ça a des conséquences pour les gens célibataires dans l'Église. Ça a des conséquences sur le mariage, parce que les gens rentrent dans le mariage en pensant vraiment qu'ils se marient avec Jésus ou qu'ils se marient avec Dieu, puis que tout ce qu'ils sont censés chercher en Dieu, ça va être comblé dans cette union-là, ce qui est complètement insensé, d'accord? Fait que ça a des conséquences aussi sur le mariage, d'accord? Parce que cette espèce de pression-là, quand tu vas accéder à ça, tu vas accéder à un niveau de bonheur qui était comme impossible d'accéder. Ben, c'est ça. Nous autres, on suit les couples après. Excusez-moi. On les aide après ça à faire un petit peu de ménage dans cette bêtise-là. Quels sont les éléments, parlons d'identité, quels sont les éléments qui définissent notre identité selon la société en général? Et là, je ne vais pas aller avec des questions juste parce que j'ai un petit peu de matière quand même que je dois couvrir dans les 6 minutes qu'il me reste. Quels sont les éléments qui définissent notre identité selon la société en général? Probablement que j'en oublierai, j'essayais de penser aux principaux, d'accord? Premièrement, homme ou femme. Notre sexe va définir notre identité dans la société en général. Ah, t'es un homme. Ah, t'es une femme. Ça dit déjà plein de choses. Ta nationalité ou ton origine ethnique, avec ce que ça peut comprendre, couleur de peau, tout ça, d'accord? Ah, on vient de définir ton identité beaucoup. Ton apparence. T'es choyé, t'es pas choyé. Tu vas vivre avec toute ta vie. Peut-être pas. Oh, t'étais cute, tu l'es moins. Mais ça définit beaucoup, beaucoup ton identité dans les valeurs de notre société. C'est énorme. Il y avait un article dans la presse ce matin là, sur le pourcentage de jeunes hommes qui ont des troubles d'anxiété parce qu'ils n'ont pas un six-pack, puis ça leur prend un six-pack, les abdos bien découpés. Ça leur prend absolument ça. Fait qu'ils sont pas gros, mais ils sont pas assez musclés. Puis là, ils vivent des problèmes d'anxiété reliés à ça. Fait que c'est beaucoup l'apparence, tout ça. Donc, c'est ton identité. Après ça, évidemment, ta profession, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Va définir qui tu es, puis ton statut social, seul, en couple, marié, parent ou non. Ce sont des choses qui vont définir dans notre société ton identité. Est-ce que vous pensez à un ou deux autres, juste les mentionner à main levée? Y a-t-il d'autres choses de gros que j'ai oublié ici? Là? Ça couvre un peu, hein? Ça ressemble à ça. Une fois que Si je pouvais me promener avec une petite pancarte qui donnait toutes ces réponses-là, les gens diraient « Ah, OK, c'est beau. Là, on peut commencer à se connaître. Je sais qui tu es en gros. » Alors qu'en réalité, ça n'a peut-être absolument rien dit sur moi. Moi, évidemment, la sexualité, là, j'ai marqué avec plus de confusion aujourd'hui, homme, femme, ou. Fait que là, c'est tout le trouble identitaire encore plus. Mais on parle du monde. On s'entend, on parle du monde. Quels sont les éléments qui définissent notre identité selon la Bible? Donc là, j'aimerais ça vous entendre. J'ai mis des éléments dans mes notes à moi, mais si vous pensez au Nouveau Testament, d'accord? Puis je vais y aller tout de suite, juste à cause du temps. Si vous pensez au Nouveau Testament, c'est quoi qui définit ton identité dans le Nouveau Testament? Donnez-moi pas juste des réponses spirituelles. Essayez de couvrir tout le Nouveau Testament dans votre tête, là. Qu'est-ce qui définit notre identité dans le Nouveau Testament? Je peux les répéter, je pense que ça va aller un petit peu plus vite. Notre position en Jésus, on va le développer un petit peu, François. Homme-femme, c'est présent, hein? C'est là quand même. Juif-grec, ton identité nationale. Donc, c'est des choses qu'on voit, d'accord? C'est là, homme-femme, c'est quand même présent. Marié, non-marié, est-ce que tu es un juif, est-ce que tu es un païen? Maintenant, dans quelle direction s'en va l'enseignement du Nouveau Testament sur l'identité? Donc, c'est toutes des choses qui sont là définitivement. Dans quelle direction s'en va le Nouveau Testament? Si je fais juste énumérer cette liste-là, homme, femme, juif, grec, est-ce qu'il y a un passage de Paul qui vous vient à l'esprit? Pardon? Oui, il va dire, il n'y a plus ni homme ni femme dans le Seigneur. Et donc, on arrive avec toute une nouvelle vision de l'identité qui est davantage située dans notre identité en Jésus-Christ. Quels sont les mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour dire qui nous sommes? Là, on s'en va un petit peu plus dans la théologie. Qui nous sommes comme chrétiens? Enfants de Dieu. Donc, je vous dirais, d'après moi, là, l'élément identitaire le plus présent, le concept le plus fort dans tout le Nouveau Testament, c'est que nous sommes enfants de Dieu. D'accord? Puis ça définit notre identité. Tu veux-tu lui donner le micro, s'il te plaît, Jean? Juste vite, vite. Puis garde-nous ça bref, s'il te plaît, Paul. Oui.
Juste, j'étais dans un camp chrétien, et puis le prédicateur, un gars que je ne connaissais pas, il était dans un temps de prière, puis tout ça, avec un groupe. Puis moi, je suis arrivé, puis j'ai commencé à répandre devant Dieu ce que je vivais. Et puis lui, le Seigneur l'a tellement saisi, il m'a dit, Paul, il dit, tu es un prince du Seigneur. Puis c'est vrai, après ça, j'ai réalisé, c'est vrai, je suis co-héritier avec Christ, je suis un prince. Hey, relève la tête, t'es un prince. Oui, t'as connu des échecs, mais t'es un prince. Puis ça m'a vraiment touché.
Oui, définitivement. Excellent. C'est là que je m'en vais. Si, j'ai essayé de les mettre un petit peu dans l'ordre ou dans l'accent là, que je voyais. Là. Enfant de Dieu, frère et sœur en Jésus-Christ, disciple de Christ, saint, évidemment. Régulièrement, on va être rappelé les saints, c'est-à-dire ceux qui ont été mis à part, amis et frères et sœurs de Jésus-Christ. Tout le Nouveau Testament bâtit l'identité sur ça. Tout le Nouveau Testament, on va le développer plus la semaine prochaine, là, j'arriverai pas à terminer, je savais que je compléterais peut-être ça la semaine prochaine, mais réfléchissez à ça cette semaine. Tout le Nouveau Testament bâtit l'identité sur le fait qu'on est en Jésus-Christ, un enfant de Dieu, on est un disciple de Christ, on est des frères et sœurs en Jésus-Christ, d'accord? On est des saints qui sont mis à part, on est des amis de Christ, amis de Jésus, co-héritiers avec Christ, serviteurs de Christ. Et c'est frappant, quand tu prends cette lentille-là, là, puis tu te poses la question, quand je lis le Nouveau Testament, là, Qu'est-ce que Dieu essaie de me communiquer sur mon identité, là? Si tu dis, OK, je vais aller lire ça comme marié, hey, t'as pas grand-chose dans le Nouveau Testament. Honnêtement, là, le Nouveau Testament adresse la question parce que l'Église est composée de mariés, là, mais je veux dire, le mariage qui est célébré dans le Nouveau Testament, c'est notre mariage à Christ, c'est le mariage entre Christ et son Église. Dans la notion de famille, si vous essayez de prendre le Nouveau Testament puis faire une glorification, une célébration de la famille nucléaire là, de Esther, Yannick, Jade, Bastien, les quatre, c'est vraiment difficile. Vous avez des directives. Puis il y a des idées importantes. Par exemple, il va nous être dit que le mariage entre Yannick et Esther, c'est censé être une illustration glorieuse du mariage entre Christ et son Église. Donc, c'est vraiment beau, c'est quelque chose de génial. Mais quand même, c'est mince. La notion de famille, la manière qu'elle est développée dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. À un moment donné, Paul va dire, garde, parce que là, si tu négliges tes parents, puis tu négliges de prendre soin de ta famille, t'es pire qu'un païen. Mais t'es plus dans l'ordre du devoir que dans l'ordre de « Wow! Faut courir après ça, c'est extraordinaire, c'est génial, wow! » Pensez-y, là, dans le Nouveau Testament, là, c'est comme si c'est des commentaires en côté pour s'assurer que l'Église, dans tout ce qui la compose, vit bien ses responsabilités dans ces domaines-là aussi. Puis le highlight qu'on a dans le Nouveau Testament par rapport au mariage et tout ça, c'est Éphésiens 5, qui est absolument extraordinaire, puis qui nous aide à comprendre que le mariage, dans la pensée de Dieu entre un homme et une femme, était là pour illustrer le mariage entre Dieu et son Église, entre Christ et son Église. Donc, ce l'est absolument extraordinaire. Mais c'est dans un contexte de devoir. Paul s'en sert pour dire, « Hey, les bonhommes, vous êtes mieux d'être des bons chrétiens, puis voici comment je vais vous dire ça. T'es supposé d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. » D'accord? Je suis encore dans un... Nous, on prend ça, là, puis tu t'en vas toujours vers ce passage-là, souvent dans un mariage, puis tu te dis, écoute, ça révèle l'Évangile, le mariage. Oui, je comprends. T'as-tu lu avant dans la célébration du mariage? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à votre mari. Hein? T'es-tu allé là? Parce que c'était un devoir, dans le fond. Il est en train d'apporter un correctif sur des mariages qui allaient mal. Il est en train de dire, soyez sûrs d'être des bons chrétiens dans votre mariage aussi. Donc, on va s'arrêter ici. Vous pouvez lire la balance des notes. Là, il reste juste un petit bout de notes. Je vais prendre le temps de déposer ça bibliquement comme il faut la semaine prochaine. Mais moi, je vous invite à réfléchir cette semaine. Quelle est la place dans la définition de notre identité comme être humain, comme personne mariée ou célibataire dans le Nouveau Testament? Comment est-ce que le Nouveau Testament définit notre identité? Puis, si vous trouvez des perles que je n'ai pas trouvées, envoyez-moi les par courriel, d'accord? Mais selon moi, clairement, l'identité dans le Nouveau Testament se situe dans ce que je deviens en Jésus-Christ. Puis, le Nouveau Testament met un très, très fort accent à dire on est tous semblables en Jésus-Christ. Le Nouveau Testament a tendance justement à briser toutes les barrières, toutes ces constructions-là. Il y a certaines directives qui sont gardées. Dieu appelle l'homme à être le chef de son foyer. Dieu appelle des hommes à conduire l'Église à travers l'enseignement, comme ancien, comme pasteur. T'es vraiment pas dans le schéma que tu trouves avant, d'accord? Mais il y a vraiment cet accent-là très, très fort. Et Jésus, je vais terminer avec cette parole-là de Jésus, si je peux retrouver ma petite citation. Dans Matthieu 20, lorsque Jésus parle avec les Sadducéens, il va leur dire, regardez les boys, de toute façon, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Il est en train de dire, de toute façon, les gars, c'est temporaire, cette affaire-là. C'est jusqu'à temps qu'on entre dans le vrai bonheur, qu'on soit comme les anges dans le ciel. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on apprend dans la vie chrétienne à renouveler notre intelligence, à renouveler notre pensée, Seigneur, et je pense que l'Église contemporaine a besoin d'apprendre à renouveler cette pensée. On a eu des modèles, des exemples de christianisme à travers l'histoire avec des célibataires qui s'enfermaient dans des monastères. Puis on est tellement fiers de dire que nos pasteurs sont généralement mariés, puis peuvent conseiller. Puis... Seigneur, je te demande de me garder si je vais au-delà de tes Écritures, mais je crois vraiment qu'on a besoin de réformer notre compréhension du mariage et du célibat et surtout de notre identité. Je te demande, Seigneur, de bénir ces semaines qu'on va passer ensemble. Viens nous faire grandir, Seigneur. Viens faire une œuvre profonde dans les cœurs afin qu'on puisse vraiment savourer le bonheur d'être en Jésus-Christ, vraiment apprécier la gloire de ce que l'Évangile a fait pour nous dans notre identité profonde. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.